Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Amen.
Nous avons la joie d'accueillir le Père David. Merci Père David. Ben Didier est là. Et puis André. André. Voilà. Et puis les jeunes, voilà, qui s'occupent, je crois, de l'intendance du camp vélo. C'est ça?
Animation.
Viens présenter ça.
Alors, il y a l'équipe d'animation, les animateurs, qui se préparent à accueillir les jeunes qui vont arriver demain matin. Et puis le staff, c'est-à-dire ceux qui s'occupent aussi de l'installation, démontage, remontage des tentes, entre autres, et puis l'animation aussi des veillées.
Merci André. Merci. Portons dans notre prière aussi le pèlerinage de notre paroisse qui sont sur les traces de Zélie Martin, Louis Zélie Martin à Alençon. Nos évêques de France nous demandent particulièrement de prier pour la paix sociale en France. Et demandons au Seigneur qu'il nous donne son Esprit Saint, vraiment, pour savoir exactement, enfin, voir les lumières de Dieu, à la fois pour nos gouvernements, nos gouvernants, puis pour toutes les personnes qui sont confrontées aux violences, et que la miséricorde du Seigneur nous aide aussi, chacun de nous, dans notre quotidien, à approfondir cette relation avec le Christ qui nous aide à approfondir la relation au prochain. Bien, frères et sœurs, entrons dans cette Eucharistie, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant.
Je reconnais en moi, frères et sœurs, que j'ai péché en parole, en parole.
C'est pourquoi je suis venu à la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Amen.
Lecture du deuxième livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari: « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur: « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit: « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit: « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus donc de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple. Amen. Je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs, l'hospitalité au service de la vie, qui est une réciprocité de l'amour, mais de quelle hospitalité s'agit-il dans la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus nous dit dans l'Évangile, celui qui reçoit un prophète en tant que prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en tant que juste recevra une récompense de juste. Et nous le vérifions dans le récit au second livre des rois, cette grande dame de la cité de Sunam, ancienne capitale cananéenne au sud-est de la Palestine, est visiblement une maîtresse de maison. Elle décide, organise et son mari acquiesce. Elle est aussi une femme croyante et fervente, pleine de respect et d'attention pour Élisée, en qui elle voit un homme de Dieu. Elle n'oublie aucun des éléments nécessaires au ministère de ce prophète itinérant. Cette femme pense à l'âme autant qu'au corps. Elle lui ouvre une table, fait aménager une chambre qui servira au prophète de lieu de repos, d'oratoire pour la prière et de bureau de travail. Cette dame ne demande rien. Elle est accueillante par bonté d'âme et sans calcul d'intérêt. Élisée accepte avec simplicité les facilités qui lui sont offertes, mais il est trop délicat pour accepter sans une certaine rétribution, mais sans froisser. Son serviteur, Giési, qui est doué d'esprit d'observation et de finesse, a deviné la tristesse de ce ménage sans enfant et compris la peine secrète de cette femme. Alors le prophète Élisée, dans sa prière, va lui obtenir la grâce d'accueillir et de donner la vie. Elle aura permis au prophète d'accomplir sa mission, mais le prophète l'aura habilité, elle aussi, à sa fonction maternelle en intercédant pour elle. Dieu n'ignore pas ce que l'on accomplit par amour pour lui. Dieu est reconnaissant et miséricordieux. Cette belle histoire de la Tsunamite, nous la comprenons bien et elle est heureuse. Et pourtant, l'hospitalité que nous demande Jésus va beaucoup plus loin dans le don et le don de nous-mêmes jusqu'au bout de l'amour. Ainsi dit-il, qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Et voilà l'un des paradoxes les plus forts de l'Évangile. Ce renoncement qui nous est demandé, loin de nous diminuer, nous dilate et nous transfigure. Et plus nous irons loin dans cette préférence totale donnée au Seigneur, plus nous serons comblés. Jésus nous dit, « Tu veux sauver ta vie ? Eh bien, tu as raison. » Tu as le droit légitime de penser à toi. Mais alors, paradoxe, il faut que tu la donnes. Ceux qui ont reçu le plus, ce sont ceux qui, au départ, ont le plus donné. C'est peut-être ce que vous destinez à faire dans votre générosité de jeune, de donner votre temps, votre personne, à plus jeune que vous. Pensons aussi à saint François d'Assise, le fils d'un riche drapier qui, devant l'évêque confondu, redonne à son père irrité tous ses vêtements et s'en va sur le chemin, se sentant devenu libre et riche de la pauvreté du Christ. C'est le jeu à qui perd gagne. Dans les milieux chrétiens, on demande aux enfants de donner, de se dévouer. On parle de générosité, de sacrifice. Aujourd'hui, en antithèse, on a tendance à dire, par réaction peut-être, réalise-toi, épanouis-toi, sens-toi bien, aime-toi, prends soin de toi. Eh bien, Jésus fait la synthèse qui s'impose. Oui, il faut t'épanouir, te réaliser, t'aimer, mais le bon moyen de te réaliser, c'est justement de te donner, de sortir de l'égoïsme, de l'égocentrisme, qui ramène tout à soi. Paradoxe. Mais paradoxe justifié par les faits. En nous demandant de le préférer, Jésus nous rend ainsi un immense service. Il nous empêche de faire d'une créature une idole. Il ne nous demande pas de haïr nos proches, mais de ne pas les idolâtrer, de ne pas les absolutiser. À les idolâtrer, on se réserve de douloureux réveils. En mettant le Christ à la première place, les autres affections se trouvent placées à juste distance. L'amour prioritaire pour Jésus nous fait éviter, dans notre amour pour nos proches, le double écueil de l'idolâtrie et de l'indifférence. Enfin, lorsqu'une personne met le Christ en priorité dans sa vie, elle devient alors pour les autres un autre Christ. « Qui vous accueille, m'accueille, dit le Seigneur. » Si les exigences sont si grandes pour l'apôtre, cela provient de la grandeur même de la mission qui fait de l'envoyé du Christ un autre Christ, comme le Christ est lui-même le visage du Père qui l'envoie. Plus le chrétien fait au Christ la première place dans sa vie, plus il est christifié. J'ai pas dit crucifié, christifié. Si par le baptême dans la mort du Christ, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. Vivante est la parole de Dieu, efficace, plus incisive qu'un glaive à doux tranchant, nous dit saint Paul. Et c'est vrai que l'Évangile, même si elle est une bonne nouvelle, n'est pas une parole lénifiante, mais une parole qui bouscule. Jésus ne vient pas faire de nous des gens sans consistance, mais des fils de Dieu. Cette parole prend parfois des accents provocateurs. Jésus préféré à son père, à sa fille. Voilà une parole qui frappe fort pour que nous l'entendions et que nous soyons quelque peu déstabilisés dans notre tiédeur. Il y a, certes, une intransigeance, une radicalité de l'Évangile qui n'est pas l'expression de la toute-puissance d'un Dieu qui prendrait plaisir à tout exiger, mais d'un amour qui demande beaucoup dans un premier temps pour mieux conduire ensuite à l'épanouissement. Saint Bernard dit que Dieu demande d'être aimé, sachant que ceux qui l'aiment deviendront bienheureux par cet amour même. Jésus veut être préféré absolument, totalement, c'est vrai. Mais c'est pour mieux nous ouvrir la route du bonheur. Souvenons-nous de la prière du Deutéronome. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Au fond, n'avons-nous pas oublié la grandeur, la transcendance, la primauté de Dieu? On pourrait dire son droit de préemption sur tout être, puisque tout être vient de lui. Or, l'étonnant, c'est que Jésus revendique ce droit de préemption, cette première place, dans les cœurs que seul Dieu peut exiger. Il n'y a guère de passage dans l'Évangile où sa divinité est aussi clairement affirmée. Et dès lors, des jeunes choisissent le célibat, malgré un légitime désir de fonder une famille. Jésus mérite qu'on lui donne tout. Le curé d'Ars, à la pauvreté légendaire, essayait de n'avoir que des objets de culte de réelle valeur. Jésus mérite qu'on lui donne tout, disait-il. Aimer le Christ, ce n'est pas d'abord une affaire de sentiment. Une jeune fille peut être plus émue à la vue de son fiancé qu'en recevant l'Eucharistie. Est-ce à dire qu'elle aime moins le Christ que son fiancé? Aimer le Christ, ce n'est pas d'abord une affaire de sentiment. C'est faire ce qu'il demande. Le préférer, c'est donc préférer faire en premier ce qu'il désire justement. Dans bien des cas, ce qu'il désire essentiellement, c'est pour que nous aimions nos parents, nos enfants, nos conjoints. Mais c'est vrai, il peut arriver que le désir du Christ sur le fils ou la fille ne soit pas le même désir que celui des parents. On le comprend. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Vous savez, ô mon Dieu, je n'ai jamais désiré que vous aimer, je n'ambitionne pas d'autre gloire. » Et son père n'a pas interdit à sa fille l'entrée au Carmel en dépit de son jeune âge. L'Évangile nous déconcerte parfois par ses paroles décapantes, mais surtout par ses fréquents paradoxes. Qui veut sauver sa vie doit la perdre. Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent. Vous devez être dans le monde sans être du monde. Or, ces paradoxes ne devraient pas nous étonner. Ils sont le meilleur signe de la justesse de ton, de l'Évangile, car peut-on parler de l'homme autrement qu'en paradoxe? Peut-on réduire l'homme à une définition simpliste? L'homme est infini, comme Dieu dont l'image est à l'image. Et un infini ne peut s'approcher que par des voies opposées. Magnifique Évangile qui nous révèle l'existence d'un Dieu aussi puissant que vulnérable, aussi exigeant que passionné, aussi lumineux que mystérieux. Admirable Évangile qui parle à l'homme du chemin de la croix pour le conduire au bonheur du ciel. Après avoir entendu la parole de Dieu, comment ne pas penser à la Vierge Marie? Dieu lui a beaucoup donné en se donnant lui-même, mais il lui a aussi beaucoup demandé en se donnant elle-même. En l'associant à son sacrifice suprême de la croix, c'est le propre de l'amour que de donner sa vie. Et demandons à la Vierge Marie, notre Mère, de nous conduire sur le chemin de l'amour, au bonheur de la vie, avec Dieu. Amen.